Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Orange.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous partons en Amérique latine, pas n'importe quelle Amérique latine, mais celle qui a tenté de trouver de nouveaux chemins économiques, de tourner le dos, dit-on, au libéralisme économique, de restaurer la puissance de l'État pour sortir le maximum de personnes de la pauvreté. Cette Amérique latine-là, elle s'incarne dans trois pays, l'Équateur, la Bolivie, le Venezuela, dans trois leaders, l'Équatorien Rafael Correa, le Bolivien Evo Morales, et le Vénézuélien Hugo Chavez, aujourd'hui décédé, et auquel a succédé Nicolas Maduro. Au cours de cette émission, nous allons nous demander si ces trois pays ont adopté un modèle unique, s'ils ont pu rompre avec un modèle traditionnel souvent basé sur les exportations de matières premières, si la pauvreté y a été réduite et si le chemin de l'émergence leur est ouvert. Toutes questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Jean-François Ponceau.
Bonjour.
Jean-François Ponceau, on l'entend peut-être en raison du décalage, vous êtes en direct des studios de France Bleu Isère, vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Grenoble, vous y dirigez le centre de recherche en économie, vous avez récemment co-signé avec Michel Aglietta et Pepita Ould Ahmed un gros livre intitulé « La monnaie entre dette et souveraineté » publié aux éditions Odile Jacob, vous avez été consultant pour le ministère de la coordination de la politique économique de l'Équateur, vous êtes intervenu plus spécialement sur la nouvelle architecture régionale en Amérique du Sud. Alors nous allons revenir au cours de l'émission sur tous ces sujets. Mais d'abord, Jean-François Ponceau, par quel miracle un économiste français se retrouve-t-il dans les cercles dirigeants équatoriens ?
Ben écoutez, pour une chose très simple, c'est que j'avais fait ma thèse de doctorat sur la dollarisation. Et il se trouve que l'Équateur a dollarisé son économie au cours de l'année 2000. J'ai fait mon post-doctorat là-bas et puis avec les différents contacts, progressivement, je me suis retrouvé intégré aux discussions régionales et aux discussions nationales au niveau de l'Équateur.
Et on vous a fait confiance ?
Ben, j'espère. En tout cas, j'ai apporté mon expertise, hein, comme beaucoup d'autres experts, avec différents projets, notamment le projet de création de la Banque du Sud et la création du plan Sucre, qui était un projet de monnaie régionale.
On en reparlera. 2007-2008. Laissez-moi vous présenter nos autres invités en studio cette fois-ci. Il y a ici les Moulineaux, Vera Chiodi. Bonjour Vera Chiodi.
Bonjour.
Vera Chiodi, vous êtes maître de conférence à l'Institut des hautes études d'Amérique latine à Paris. Vous enseignez à Sciences Po. Vous avez travaillé sur deux grands pays latino-américains, l'Argentine et le Mexique, qu'on dit souvent rivaux, et aussi sur le Pérou, tout près de l'Équateur, et de la Bolivie. Vous vous rendez assez souvent en Afrique de l'Ouest, m'avez-vous dit, vous revenez à peine de Côte d'Ivoire, où vous avez passé une dizaine de jours. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux régions du monde que vous connaissez bien, l'Amérique latine, l'Afrique, sur le plan économique, j'entends?
Oui, évidemment, il y a des points communs. Moi, en tant qu'économiste intéressée par le développement économique, ce sont deux régions auxquelles je m'apprête beaucoup à y travailler et à inclure dans mes recherches. Mais il y a aussi une grande différence, parce que la question reste grande ouverte de savoir si l'Afrique est toujours dans une espèce de trappe à pauvreté séculaire. Donc il y a des estimations de plusieurs décennies qui pourraient peut-être l'avérer. Tandis que l'Amérique latine, c'est plutôt, ils sont dans une espèce de trappe ou de piège dite de pays à revenus intermédiaires.
Qui donc sorti de la trappe à pauvreté.
Oui, exactement. C'est une espèce de revenu, de piège de revenus intermédiaires qu'on dit qu'ils subissent deux types de contraintes. Une première contrainte parce qu'ils doivent faire face à la concurrence des pays qui pratiquent des coûts salariaux bas et à la capacité d'acquérir des parts de marché plus importantes dans des secteurs à plus haute valeur ajoutée.
Edgardo Torija, vous terminez ce tour de table introductif, bonjour.
Bonjour.
Edgardo Torija Hassein, vous êtes économiste, spécialiste de finances internationales. Vous enseignez l'économie à Sciences Po à Paris, vous avez travaillé aux Nations Unies à Genève et dans des banques privées comme Natixis et également à la Banque Centrale de la République d'Argentine, où vous avez dirigé le département des accords internationaux. Est-ce que ce travail impliquait des contacts avec les banques centrales de la région, en particulier Bolivie, Équateur, Venezuela ?
Oui, tout à fait, régulièrement, on avait des réunions. Je me souviens de la réunion des présidents des banques centrales qui s'est tenue tous les deux mois. Et donc, souvent, c'est les gouverneurs des banques centrales qui participent, mais aussi, ça mène avec eux d'autres cadres des banques centrales. Donc, j'étais en contact, effectivement, avec des banques centrales d'Amérique latine. Et aussi, j'ai participé, là, que vous avez évoqué, à une réunion du sucre à Caracas en janvier 2013.
Que Jean-François Ponceau évoquait, nous en parlerons au cours de l'émission. Mais bien sûr, dans cet écho d'ici, écho d'ailleurs, des reportages, nous irons rejoindre Alice Campagnol à La Paz, Eric Sanson à Quito et Julien Gonzalez à Caracas. Au Venezuela, Nicolas Maduro occupe la présidence de la République depuis 3 ans. Il a succédé à Hugo Chavez, qui a dirigé ce pays latino-américain, grand producteur de pétrole pendant 14 ans. Au total, donc 17 ans de chavisme, puisque c'est le mot qu'on retient. En Équateur et en Bolivie, un peu moins, 10 ans de pouvoir pour Correa, comme pour Morales en Bolivie. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les politiques mises en place dans ces trois pays, Edgardo Torijacen?
Oui, je crois que oui. En fait, ce qu'il y a en commun dans ces trois pays, c'est une forte dépendance des exportations d'hydrocarbures, non seulement pour les recettes d'exportation, mais aussi parce que les budgets de ces trois pays sont fortement dépendants de ces exportations, à hauteur de 40% dans le cas du Venezuela, 30 et quelques en Bolivie, un peu moins en Équateur. Donc, et ce qu'il y a eu en commun dans ces trois pays, c'est un effort visant à prendre les contrôles un peu de ces exportations de ces ressources et à les utiliser dans le cadre des programmes de, sociaux visant à distribuer les revenus.
Jean-François Ponceau, vous en pensez quoi? Il y a des points communs entre les politiques économiques mises en place dans ces trois pays?
Oui, le point commun, c'est d'utiliser l'argent du pétrole pour financer des politiques sociales, des politiques de redistribution, des politiques de financement des infrastructures, avec des effets relativement mitigés. Hein. Il y a des aspects très positifs, mais aussi des échecs, on peut dire. En revanche, il y a une petite nuance peut-être avec l'Équateur. L'Équateur a rapidement, enfin en tout cas avec l'élection de Rafael Correa, il y a une dizaine d'années, a voulu absolument sortir du modèle extractiviste. C'était le cas également un petit peu en Bolivie.
Et le modèle extractiviste, c'est le modèle basé exclusivement sur les ressources du sous-sol. C'est ça, que ce soit du pétrole
voilà,
ou d'autres
ça.
Minerais.
On exploite les ressources du sous-sol, on les exporte et on engrange des recettes en dollars. Et c'est toute la difficulté, le dilemme hein, de ces politiques, c'est comment financer des nouvelles politiques alternatives avec des dépenses publiques importantes pour financer ces programmes sociaux, ces programmes d'investissement, sans être dépendant des recettes d'exportation en dollars.
Vera Chiodi, cet extractivisme, il est enterré?
Il y a quand même encore une grande dépendance Venezuela et Équateur avec le pétrole. Pour le Venezuela, ça représente 60 ou 70% des exportations, donc c'est le pétrole. Donc par exemple, on dit que le Venezuela, c'est un vrai cas de maladie hollandaise. Tandis que par exemple, la Bolivie a fait des choix, enfin a des ressources naturelles, et plus bénéficiés que l'Équateur, le Venezuela.
La maladie hollandaise, précisez-nous ce que c'est.
En fait, c'est quand un pays a donc un secteur exportateur plus ou moins diversifié, mais comme dans le cas de la Venezuela, assez fortement centralisé sur le pétrole. Le fait d'avoir une structure dans l'économie, d'avoir un secteur protégé, abrité, qui ne participe pas au commerce international, et un secteur exportateur très très dynamique, cela donc par exemple avec des fortes exportations de pétrole, cela va mener à une appréciation du taux de change, à une augmentation de la demande interne, à une augmentation des salaires internes, donc à une augmentation de la demande qui vise et le secteur abrité et le secteur exportateur. Mais comme les prix du secteur exportateur s'alignent avec les prix internationaux, donc il y a une augmentation du salaire réel, ce qui va finalement faire que l'économie va se spécialiser uniquement sur ce seul produit.
Donc ça, c'est le cas du Venezuela, le pays dont on entend probablement dans les médias le plus parler en ce moment, parce qu'il est dans une situation critique. Les pénuries de tout type s'y multiplient. L'une des plus criantes, c'est celle de médicaments. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Julien Gonzalez à Caracas.
Jeudi 17 novembre, une marche des ordonnances est organisée à l'initiative du parti d'opposition Primero Justicia, motif demander l'ouverture d'un canal humanitaire pour approvisionner le Venezuela en médicaments. Freddy Ceballos, le président de la Fédération pharmaceutique du Venezuela, fait partie du cortège. Il décrit une situation insoutenable.
Pour une commande à l'étranger, il faut obtenir une autorisation de devise. Avec cette autorisation, les multinationales envoyaient les produits, mais les dollars ne leur parvenaient pas. Donc les produits n'ont pas été payés, mais ils sont bien arrivés dans le pays. Et c'est ce mécanisme néfaste qui fait que la dette dans le secteur pharmaceutique a atteint un tel niveau. La dette dépasse les 5 milliards de dollars. Nous sommes en faillite. Il y a 6 régions où 44 pharmacies ont dû fermer et le gouvernement s'en fiche. C'est un marché très cyclique. Il y a des médicaments qui arrivent sur le marché et d'autres qui en sortent, mais la pénurie se maintient à 85% de médicaments manquants.
Principales victimes de cette crise, les petites pharmacies et les pharmacies indépendantes sont particulièrement touchées par ces pénuries. Dans le quartier de la Florida, Louis Mathison a tenu la pharmacie familiale San Bosco pendant plus de 50 ans. En mai dernier, il a dû fermer boutique.
Les deux problèmes que j'ai dû affronter, c'est d'une part la pénurie de médicaments et d'autre part la politique des grossistes qui servent en priorité les grandes chaînes de pharmacies, ce qui fait que les petites pharmacies comme la mienne ne reçoivent quasiment aucun médicament. Quand les salaires ont commencé à augmenter, je ne pouvais plus payer et j'ai dû demander à une de mes employées de partir après 25 ans de service. À un moment donné, j'avais dépensé tout mon capital et les revenus ne me permettaient plus de vivre. Après 65 ans d'existence, j'étais obligé de fermer mon commerce.
Face à ces pénuries, les patients et leurs familles sont nombreux à être désespérés, comme Nelson. Son fils de 29 ans souffre d'épilepsie sévère depuis son plus jeune âge. Pour se soigner, il a besoin de 4 médicaments, un traitement actuellement introuvable selon Nelson, qui ressent chaque jour un peu plus d'angoisse et de colère.
Ces deux dernières semaines, j'ai dû visiter à peu près 11 pharmacies par jour, qu'elles soient publiques ou privées, et je n'ai rien trouvé pour mon fils. J'ai appelé des membres de ma famille qui vivent à l'intérieur du pays pour qu'ils cherchent ses médicaments, et rien non plus. Je suis très inquiet quand je vois mon fils en crise et que je ne peux pas l'aider. Si avec des médicaments, mon fils a des convulsions, alors sans médicaments à longue durée, je préfère ne pas imaginer ce qui peut lui arriver.
De son côté, dans la présentation le 1er novembre dernier du rapport à l'ONU sur les droits de l'homme au Venezuela, la ministre de la Santé a affirmé que plus d'un million de médicaments en moyenne est distribué chaque jour dans le pays via le système national de distribution de médicaments créé en février dernier.
C'était Julien Gonzalez à Caracas. Jean-François Ponceau, qu'est-ce qui explique l'effondrement de l'économie vénézuélienne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot? Comment une politique basée sur un pays très riche en pétrole, qui a beaucoup de ressources à ce niveau-là, comment cette économie peut-elle s'effondrer de la sorte?
Bon, pour moi, le facteur principal, c'est cette dépendance au pétrole, qui effectivement, quand on est tellement dépendant de ressources qui proviennent du pétrole, il est difficile de transformer le système. D'autant qu'à l'intérieur du Venezuela, il y a des oligarchies qui ont été longtemps en opposition avec le pouvoir. Donc tous ces groupes sociaux, ces groupes politiques, ces groupes financiers en confrontation, évidemment, n'ont pas permis effectivement de réformer le pays. À cela s'ajoute également un élément important qui est le retour de l'hyperinflation. La dette extérieure, cette dépendance aux exportations, des conflits sociaux. On a vraiment l'impression qu'on a un retour en arrière avec le cas du Venezuela aujourd'hui.
Vera Chiodi, vous voulez intervenir?
Oui, je veux vraiment reprendre un autre concept, celui du cercle vicieux. En fait, justement, pour essayer de contrôler l'inflation, le gouvernement met des contrôles de prix.
Et
de change aussi, évidemment. Donc, il y a un marché de change parallèle totalement. Donc, il y a un contrôle des prix, donc, pour ramener les prix bas, donc, justement, pour lutter contre l'inflation. Et le peu d'économies locales privées qu'ils savaient créer n'a plus les incitations parce qu'ils disent, je peux pas couvrir les coûts. Donc, j'arrête de produire. Donc, c'est ça aussi ce qui explique la pénurie des médicaments. La forte inflation qui, évidemment, explique la dévaluation de la monnaie fait de plus en plus difficile d'importer des médicaments, des aliments. Le Venezuela importe 90% de ses aliments. Donc, il y a une vraie politique de contrôle des importations. Et donc, finalement, il laisse importer ce qui est le plus urgent, le plus important, etc. Mais évidemment, Il y a des désajustements comme celui-ci qui, on parle un peu de peut-être crise humanitaire, etc. Il y a aussi, je reprends par rapport au concept de rente pétrolière.
De rente pétrolière.
Oui, donc c'est aussi une autre caractéristique de l'économie vénézuélienne. C'est un peu une espèce de double vitesse parce que c'est le marché est vraiment segmenté. Donc il y a évidemment une toute petite partie du marché qui a des revenus en dollars.
Ce avec que vous appelez pouvoir... le marché, c'est la population.
Oui, oui, oui. Donc il y a un pouvoir d'achat assez élevé qui consomment en dollars, etc., et une grande majorité de la population qui doit aller une fois par semaine en supermarché avec leur petit cahier, de la même façon qu'à Cuba, ce qu'on connaissait du cas du Cuba.
Mais avec la différence, c'est le rationnement.
C'est le rationnement, mais à la différence qu'à Cuba, c'était certain de pouvoir trouver les 2 kilos de farine, etc., tandis que ce n'est pas aujourd'hui le cas au Venezuela.
Edgardo Torrijos Hussain, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la politique de Chavez et de Maduro? Qu'est-ce qui a amené le Venezuela à cette situation-là?
Oui. Non, je pense que fondamentalement, c'est un système qui fonctionne bien tant que les recettes pétrolières sont élevées. Mais quand il n'y a plus, quand on doit faire face à un ajustement conjoncturel assez brutal, bon, on voit que, effectivement, comme avait la juste dit, il y a des rationnements et beaucoup de inefficiences qui sont cachées tant que les choses vont bien, mais qui apparaissent lorsqu'il y a une crise. Et ces inefficiences sont le temps passé dans les queues pour aller acheter des produits,
ramener les billets,
faire des queues, tout ça qui non seulement est un problème pour la population, mais c'est aussi des heures humaines utilisées pour des activités non productives. Donc cela répercute sur la productivité finalement du travail, et donc finalement on rentre dans cette idée des cercles vicieux, c'est-à-dire pour régler les problèmes, on crée un nouveau problème qui est lié à l'absence totale des possibilités de faire des gains de productivité dans la situation actuelle. Peut-être qu'on n'a pas trop rentré dans les détails sur la question du régime d'échange vénézuélien.
Le contrôle d'échange, vous voulez dire, qui a été mis en place très vite
En 2003, le gouvernement vénézuélien a imposé des contrôles d'échange à la sortie des capitaux dans le cadre, vous vous souviendrez, de la crise suite à la grève des PDVSA.
PDVSA, c'est la compagnie pétrolière vénézuélienne.
Tout à fait. Donc c'était l'idée d'introduire des contrôles de capitaux. C'était tout d'abord une réponse à un problème conjoncturel. Mais après, c'est devenu un peu un pilier de la politique vénézuélienne. C'est-à-dire le gouvernement qui prend en charge les marchés de devises et celui qui va donc décider où vont les devises. Donc d'abord, c'est une politique conjoncturelle. Après, ça devient un pilier. Et accompagné par un taux d'échange fixe. Au début, c'est un taux d'échange fixe unique, mais il y a un marché parallèle qui est toujours là du fait des restrictions au mouvement des capitaux. Mais après, à partir de l'année 2010, on a, disons, un nouveau système d'échange qui est un système d'échange avec des taux officiels multiples. C'est-à-dire un qui va être un prix bas, un dollar pas cher, bon marché, pour des produits considérés comme des premières nécessités, et un autre taux d'échange pour les restes des opérations qui sont permises. Et un troisième qui est toujours là, qui est l'échange, on va dire, du marché noir, et qui reflète un peu souvent éventuellement une surévaluation du taux d'échange. Donc on a un rationnement pour certains produits, et aussi des possibilités, des gains assez exceptionnels pour ceux qui peuvent faire des arbitrages avec des opérations un peu limite fraude, c'est-à-dire avoir accès aux devises sur les marchés protégés et les revendre sur les marchés noirs. Donc ça, c'est une des questions du régime d'échange. Il y a un risque aujourd'hui, comme Jean-François l'a souligné, un risque d'hyperinflation. On a des chiffres qui frôlent les 500% dans les derniers registres d'inflation. Enfin, même si les trois derniers mois, ça décélère. Et c'est lié à un problème aussi. Une manifestation de la crise au Venezuela, c'est la situation des finances publiques avec un déficit budgétaire, si on considère l'ensemble du secteur public, proche du 20% du PIB, financé essentiellement par des crédits de la Banque centrale aujourd'hui, puisque les marchés financiers sont fermés au Venezuela. Et donc, on a une possibilité claire que si la situation ne s'améliore pas, on voit l'inflation s'accélérer. Il y a l'FMI, par exemple, qui, dans ses prévisions pour 2017, table sur une inflation qui dépasse les 1000%.
On va continuer cette conversation dans la deuxième partie de cette émission, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI, parce que pour l'instant, nous avons rendez-vous avec l'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Retrouvez Écho d'ici, écho d'ailleurs après le Flash Info avec Orange Monnaie. Orange.
International.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Écho d'ici, écho d'ailleurs. Orange.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. Nous parlons de l'Amérique latine, de trois pays en particulier, du Nord au Sud, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, trois pays que leurs dirigeants ont entraînés depuis plus d'une décennie sur des chemins économiques atypiques et dont nous étudions le parcours et les résultats avec trois invités dans ce studio de RFI à Issy-les-Moulineaux près de Paris, les économistes Vera Chiodi et Edgardo Tolirasen et à Grenoble, en direct des studios de France Bleu, Isère, Jean-François Ponceau. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons commencé à évoquer quelques points communs à ces trois pays qui ont pris des chemins éloignés du libéralisme ambiant. Et nous avons parlé longuement de la situation au Venezuela, vu que les choix effectués par Hugo Chavez puis Nicolas Maduro, qui lui a succédé, n'ont pas été très probants. Une chose est claire, ce sont trois pays qui ont du pétrole. Deux d'entre eux, le Venezuela et l'Équateur, sont membres de l'OPEP. Est-ce que cela joue un rôle dans les choix de politique économique qui ont été faits, Jean-François Ponceau ?
Oui, de toute évidence, comme on l'a dit dans la première partie de l'émission, les ressources de l'État pour mener des politiques publiques sont largement déterminées par les recettes d'exportation d'hydrocarbures. Ceci étant, il y a quand même la volonté de ces pays de se détacher de cette dépendance au pétrole. Si on prend par exemple dans le cas de l'Équateur, Rafael Correa avait été élu sur un projet très populaire qui consistait à ne pas exploiter le pétrole dans un parc naturel, le fameux projet Yasuni, ITT. Et malheureusement, il a dû renoncer à ce projet et actuellement, il y a des débuts d'exploitation du pétrole dans ce parc naturel.
Alors, je disais dans mon introduction au cours de la première partie, puis à l'instant, que ces trois pays avaient cherché à s'éloigner du libéralisme ambiant. Est-ce que, Jean-François Ponceau, c'est un point de vue que vous partagez ? Peut-être pas.
Si, bien sûr que si. Ils ont essayé de le faire à la fois au niveau des politiques nationales, mais également au niveau des projets régionaux. Il est clair que Chavez a eu un rôle moteur dans des initiatives régionales, que ce soit notamment sur le plan monétaire et financier, mais au-delà, la mise en place de coopérations médicales, sur le volet commercial, sur le volet culturel entre les pays de la région. Donc l'idée, c'était quand même non seulement de se détacher du modèle libéral des années 90, mais aussi de se détacher de l'emprise des États-Unis.
Vera Chiodi, vous vouliez intervenir ?
En fait, je voulais vous faire un petit peu une distinction entre peut-être la Bolivie et l'Équateur et le Venezuela, tandis que le Venezuela, c'est peut-être le cas le plus difficile, avec une macroéconomie très très difficile, qui fait aussi beaucoup rappeler à le Chili de Salvador Allende, avec ses problèmes d'inflation, de guerre économique, comme le gouvernement l'appelle. Et le cas de la Bolivie, qui est un cas avec un petit peu plus de succès, parce que c'est plutôt un changement politique. Evo Morales, donc c'est le premier président indigène en Amérique latine, et du pays évidemment, il n'a pas vraiment beaucoup intervenu dans la macroéconomie, n'a pas eu une énorme dépendance avec le pétrole. Donc c'est par exemple ce mécontentement qu'on peut assister au Venezuela, au mécontentement de la classe moyenne au Venezuela. Maintenant s'ajoute le mécontentement des classes vraiment populaires qui souffrent énormément de questions de pauvreté. Les programmes sociaux de distribution du revenu ont été très importants au Venezuela, mais aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites par l'université de Harvard disant que il y a un énorme problème de ciblage. Donc, comme Edgardo le disait, il n'y a pas vraiment un budget clair et transparent. Ces programmes sociaux ne visent qu'en 40% les pauvres. 60% ce sont des non-pauvres.
Edgardo Torrijos, sur cette question de l'éloignement du libéralisme et des États-Unis, quel est votre point de vue ?
Oui, non, effectivement, il y a une rhétorique, si on veut, forte contre ce qui est considéré comme un facteur qui nuit au développement de ces trois pays. En même temps, il y a des paradoxes parce que les principales partenaires commerciaux du Venezuela restent de loin les États-Unis. Donc on a ces paradoxes. Enfin, l'Équateur aussi, c'est un partenaire important, les États-Unis. Et la Bolivie, bon, il y avait, vous souviendrez, il y a quelques années, des tensions avec les États-Unis, mais pour des questions ponctuelles. Par exemple, la production du coca.
De feuilles de coca,
oui. Et en Bolivie, qui est un produit qui se consomme en Bolivie et que les États-Unis faisaient pression pour qu'on arrête de produire...
À cause de la production de cocaïne, n'est-ce pas?
Oui, qui après peut être transformé en cocaïne. Donc, mais sur le cas de la Bolivie, je me reviens aussi dire un mot. Effectivement, je crois qu'il y a toujours une très forte dépendance des exportations de gaz, notamment de la Bolivie, qui partent vers l'Argentine et le Brésil, principalement, mais que un trait distant du gouvernement d'Evo Morales, c'est qu'il a été, sur les plans des finances publiques, très soigneux. Donc la Bolivie a eu aussi une forte croissance, surtout entre 2003 et 2008, et même après la crise, mais accompagnée des surplus budgétaires. Enfin, je crois que 2015, c'est la première année où on finit avec un déficit. Donc, une utilisation de finances publiques avec un usage contre-cyclique, ça le permet de continuer à investir aujourd'hui, malgré le ralentissement économique très fort. Alors, donc ça, c'était l'article 4 du FMI. Il y a une visite du FMI en Bolivie en 2015, et si vous lisez les rapports, il y a plein d'éloges de la part du FMI,
Sur la Bolivie.
Sur la Bolivie,
alors,
tout à fait.
À titre de comparaison, si on compare les produits intérieurs bruts, en Équateur et au Venezuela, j'ai fait des recherches, c'est entre 6 et 7 000 dollars par habitant. En Bolivie, ça reste moitié moins, environ 3 000 dollars. Il y a beaucoup de gaz en Bolivie, vous le disiez, l'agriculture fait vivre le tiers de la population. Et ces dernières années, le pays a profité de l'engouement international pour le quinoa, une céréale très à la mode, en particulier en Europe, pour en devenir un très gros producteur, mais les prix ont baissé et les producteurs boliviens en subissent le contre-coup. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Alice Campagnol dans l'altiplano bolivien, à plus de 4000 mètres d'altitude, là où souffle le vent.
En 2013, les prix ont atteint jusqu'à 2000 bolivianos le quintal, au moment de l'apogée du quinoa.
Vilma est productrice de quinoa dans le sud de l'altiplano bolivien depuis toujours. Une telle fluctuation des prix, elle n'avait jamais vu ça. En 30 ans, ils ont été multipliés par 15, de 20 dollars les 50 kilos, on passe en 2013 à 300 dollars. 2013, l'année internationale du quinoa, tant désirée par Evo Morales, dont il a même été l'ambassadeur. Don Rodolfo est directeur d'une coopérative de producteurs de quinoa. Il raconte les changements spectaculaires dus au boom.
Avec cette augmentation, le producteur de quinoa a fait des projections. Je vais envoyer mes enfants faire des études, je vais m'acheter une maison. Il y a eu un véritable impact. Il y a même des producteurs qui ont acheté de nouveaux outils pour produire plus.
Le succès international attire rapidement d'autres pays, le Pérou en tête. Avec plusieurs récoltes par an, le voisin andin inonde le marché et très vite, c'est la baisse des prix. La graine des dieux, symbole de la Bolivie, est soumise aux fluctuations des marchés internationaux, pourtant tant décriés par Evo Morales. Pour les producteurs boliviens, le coût est dur à encaisser. Eduardo cultive du quinoa organique, il explique.
Là-bas, le quinoa standard est traité avec des produits chimiques, il sort rapidement. Alors que le nôtre est beaucoup plus coûteux, il faut y faire attention, il faut bien fertiliser le sol. Et puis aussi, pour la récolte, il nous faut plus de travailleurs. Avec les prix si bas, on ne s'en sort pas.
Heureusement pour les agriculteurs, la production de quinoa en Bolivie fonctionne principalement avec des coopératives comme celle de Don Rodolfo, Soproqui, qui achète les grains aux producteurs. Les associés continuent à obtenir un prix convenable pour leur quinoa, à condition évidemment qu'il soit biologique. Maurice Chop est chercheur, il étudie les effets socio-économiques du boom du quinoa. Il souligne l'importance de l'aspect social des coopératives.
Les coopératives veulent offrir un prix plus élevé que le marché noir, justement pour permettre à leurs producteurs de vivre décemment. Mais la grande question qui se pose maintenant, c'est de savoir combien de temps ils peuvent encore offrir ces prix-là qui sont bien supérieurs au prix du marché finalement. En ce moment, ils sont à perte.
Une économie solidaire en quelque sorte pour contrer les oscillations des marchés. Mais la situation reste très fragile et il s'agit désormais de trouver une nouvelle place pour le quinoa bolivien au niveau international.
C'était un reportage signé Alice Campagnol à La Paz en Bolivie. Edgardo Torrijasen, vous faisiez l'éloge de la politique économique de Evo Morales en Bolivie. Est-ce qu'il a réussi à diversifier cette économie ?
Non, je pense que non. Ça reste très fortement dépendante des exportations de gaz. Mais le très marquant, c'est que, à l'instar, si vous voulez, du Chili, par exemple, qui est aussi une économie très fortement concentrée, et il y a une gestion prudente du budget qui permet de, si vous voulez, au lieu de pouvoir faire face à des épisodes conjoncturels difficiles comme celui d'aujourd'hui, sans trop de dégâts. Donc, c'est pas uniquement. Par exemple, aujourd'hui, la Bolivie peut s'endetter sur les marchés à des niveaux de taux d'intérêt qui sont bien plus bas que celles d'autres pays latino-américains, non seulement l'Équateur, le Venezuela, mais même aussi à des spreads inférieurs à celui du Brésil ou de l'Argentine.
Alors, le spread, c'est un mot un peu savant.
Oui, en fait, c'est le différentiel des taux d'intérêt qui va payer un pays avec un taux sans risque, par exemple les États-Unis. Donc si les États-Unis s'endettent à 2%, aujourd'hui la Bolivie peut s'endetter à 3,5%, enfin à des niveaux relativement faibles. Donc ça permet donc de mieux gérer les mouvements conjoncturels. Donc ça c'est quelque chose, et aussi un effort très fort de la part dans les budgets boliviens, des efforts visant l'investissement public. Et donc il y a la dimension de distribution des revenus, mais il y a aussi cette dimension de essayer de faire un effort pour développer les infrastructures que vont permettre de rester avec une croissance forte dans l'avenir.
Jean-François Ponceau, Vera Kedi rappelait tout à l'heure qu'Evo Morales était le premier président indien d'Amérique latine. Il est issu de couches de population paysanne ou de mineurs très pauvres. Est-ce que la population paysanne bolivienne est sortie de la pauvreté grâce à ces 10 années d'Evo Morales au pouvoir?
Malheureusement, non, même s'il y a eu une progression intéressante des revenus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir l'élection d'Evo Morales qui vient des populations indigènes. C'est un phénomène qui est quand même très important parce qu'il va au-delà de la Bolivie. Il concerne tous les pays andins, en réalité. Les Morales, Correa, lorsqu'ils ont développé leur nouveau programme politique, ils se sont largement appuyés sur une doctrine, sur ce qu'on appelle le buen vivir, sur le suma causai, pour reprendre un terme en quechua, et qui sont en fait des principes de vie, des principes d'organisation de la société, qui proviennent directement des mouvements autochtones, des mouvements indigènes.
Et est-ce que ça a des répercussions économiques sur l'organisation économique ?
Pas vraiment, malheureusement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ces présidents sont parfois contestés dans leur propre camp. Parce que, effectivement, mettre en application ces principes-là, ça nécessite une vraie révolution, en quelque sorte. Hein. Même s'il y a eu par exemple, en Équateur, la constitution a été modifiée, a intégré des principes qui sont assez proches du buen vivir. Dans la réalité, dans les faits.
Par exemple,
le fait que les droits de la terre doivent être intégrés dans la constitution. C'est quelque chose qu'on retrouve pas dans d'autres constitutions des pays du monde. Et ça, c'est quelque chose qui a eu un impact, on va dire, politique, un impact fédérateur dans ces deux pays. Mais au niveau des effets, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'impact.
Vous partagez cet avis, Gérard Claudy ?
Un peu partiellement, je voulais juste revenir sur une particularité de la Bolivie. C'est vrai qu'il y a un point commun avec le buen vivir de Correa et le vivir bien de Evo Morales, mais rappelons qu'en 2014, enfin je parle de ça parce que dans votre documentaire vous avez parlé de
dans la quinoa, ouais,
donc du quinoa, des conséquences socio-économiques du secteur agricole, du secteur informel. En 2014, Evo Morales a rompu les accords internationaux signés depuis presque 30 ans avec l'Organisation internationale du travail et a légalisé le travail des enfants entre 10 et 14 ans. Les enfants entre 10 et 12 ans peuvent travailler à leur compte. Entre 10 et 14 ans peuvent travailler à leur compte. Entre 12 et 14 ans, ils peuvent travailler pour un tiers. Et ce cela est lié donc à cette espèce de cosmovision indigène, parce que l'hypothèse, c'est que ce travail reste un travail formateur, de travail, on appelle ça le travail communautaire familial, qui est très lié à la cosmovision indigène, où les liens sociaux, les liens de communauté sont primordiaux. L'idée d'exploiter un père est impensable. Donc c'est un petit peu la justification, je pense un peu paradoxale, de légaliser le travail des enfants avec des contrôles un peu laxistes. On contrôle pas vraiment l'assistance des élèves dans les écoles, juste leur inscription.
Vous écoutez Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de trois pays d'Amérique latine, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie. Trois invités ici en studio, Edgardo Torrijasen et Vera Chiodi, que vous venez d'entendre. En duplex de Grenoble, Jean-François Ponceau. Est-ce qu'il y a une solidarité économique entre ces trois pays, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, Jean-François Ponceau? Est-ce qu'il y a une alliance économique au-delà de simples déclarations politiques?
Bah, disons que cette alliance, elle a été initiée par Hugo Chavez il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Et le principal volet de ce rapprochement concerne le volet monétaire et financier. Hein, pour faire simple, il y avait deux dynamiques concomitantes. Tout d'abord, le projet de créer une monnaie régionale, le sucre, qui aurait été une monnaie qui aurait servi entre les paiements, enfin pour les paiements entre les pays de la région, hein, de façon à se passer du dollar, à se passer justement de cette contrainte d'utiliser une devise, également pour faciliter l'intégration monétaire régionale. Et puis l'autre volet, c'était un volet financier, avec la création d'une banque régionale, Banco del Sur, Banque du Sud. Et c'était un schéma qui était très intelligent, très, très cohérent, puisque ça reprenait en quelque sorte la nouvelle architecture qui avait été mise en place après la Seconde Guerre mondiale, avec à la fois un pilier monétaire pour organiser les systèmes de paiement, et puis un pilier financier à travers une banque pour financer les activités de développement. Un peu plus tard, la difficulté à mettre en place cette nouvelle architecture monétaire et financière, les pays comme l'Équateur, la Bolivie et le Venezuela ont essayé d'accélérer un petit peu les choses, hein, parce qu'il y avait, faut le dire, il y avait une attitude du Brésil qui consistait à freiner un peu ce processus d'intégration.
Le Brésil, grand voisin.
Et ces pays, voilà. Oui, c'est ça, exactement.
Qui voulait maintenir sa domination.
Ont décidé de constituer l'ALBA, l'Alliance
bolivarienne,
hein, en opposition à l'Alliance, en quelque sorte, avec le grand Satan, avec les États-Unis. Mais véritablement, le problème, là, n'était pas les États-Unis. Le problème, c'était le Brésil, qui, lui, était dans une logique d'intégration régionale beaucoup différente, enfin très différente, avec cette idée qu'il fallait à la fois que le Brésil puisse placer ses pions en Amérique du Sud, mais en même temps jouer le jeu de la mondialisation, ce que ne voulaient pas nécessairement les autres pays à ce moment-là.
Alors, l'une des initiatives du président équatorien Correa, cela a été le développement de la production hydroélectrique et donc la multiplication du nombre de barrages dans son pays pour échapper, j'imagine, à la dépendance au pétrole. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Eric Sanson à Quito.
Pendant des années, l'activité économique et industrielle de l'Équateur a été dépendante du bon vouloir du climat, tout au moins plusieurs mois par an. Maïté Moreno était collégienne dans les années 90. Elle n'a pas oublié les coupures.
Je me souviens qu'il a fallu organiser les horaires pour faire les devoirs, pour cuisiner, pour se lever et se coucher plus tôt ou plus tard. À cause des coupures d'électricité qui duraient 4, 6 ou 8 heures par jour, il n'y avait pas de télé ou de radio. On avait les bougies et on attendait que revienne l'électricité en fonction des calendriers de coupure.
Malgré son potentiel en eau, l'Équateur est longtemps resté dépendant de centrales thermiques. Andrés Oquendo est le président de l'Association des ingénieurs électriques et électroniques à Quito. Il y voit un manque de volonté politique.
Aucun homme politique ne voulait se lancer dans une construction qui allait durer au moins 6 ans, voire plus, pour qu'un autre s'attribue le mérite. Personne ne lançait des projets de cette envergure.
Sans oublier que certains y tiraient des avantages très conséquents.
Quand il y avait des besoins urgents d'électricité, faute d'eau dans les centrales hydrauliques, la seule solution était de brancher les centrales thermiques. C'était vraiment une bonne affaire car la loi permettait en cas d'urgence de vendre à des tarifs très élevés.
Depuis 2006, les choses ont bien changé avec la décision du gouvernement équatorien de lancer la construction de 8 centrales hydroélectriques, dont la plus grande, Coca-Codo Sinclair, vient d'être inaugurée. Esteban Albornoz a depuis démissionné pour se présenter aux prochaines élections législatives, mais il était ministre de l'électricité jusqu'à ces derniers jours.
Quand nous aurons construit les 8 nouvelles centrales hydroélectriques, l'Équateur économisera 1 milliard de dollars par an, car nous n'utiliserons plus la génération thermique, qui est toujours en place par manque de vision des gouvernements antérieurs.
Longtemps importateur d'électricité colombienne, l'Équateur a aujourd'hui une marge de manœuvre pour commencer à exporter. Une marge qui devrait augmenter d'ici à 2017 avec l'inauguration de nouvelles centrales. Ayant elle-même beaucoup investi dans l'énergie hydraulique, la Colombie n'est pas le premier client potentiel, selon Andrés Oquendo.
On pourrait vendre de l'énergie au Pérou, mais la connexion entre les deux pays est très mauvaise. L'investissement en ligne à haute tension est fait de notre côté, mais les infrastructures au nord du Pérou ne suivent pas.
Cet investissement, s'il se fait un jour, permettrait à l'Équateur d'exporter de l'électricité au Chili qui en manque, selon le président Rafael Correa.
Ces grands travaux se rajoutent à la construction d'une nouvelle ligne de transmission de 500 kWh dont nous espérons qu'elle nous permettra de vendre de l'énergie électrique au Chili. C'est un projet d'intégration électrique sud-américain.
Un projet qui reste à concrétiser, même si, en attendant, l'Équateur avance sur la voie de l'indépendance énergétique à marche forcée.
C'était un reportage signé Eric Sanson à Quito. Edgardo Torija, vous nous disiez tout à l'heure quelle réussite était la politique économique en quelque sorte d'Evo Morales. Est-ce que c'est la même chose pour Rafael Correa?
Non, je pense que non. Et l'Équateur a, si on veut, un peu moins d'outils de politique économique. D'une part, parce que ils n'ont pas accès à des outils de politique monétaire, ce qui contraint un peu, en cas de faiblesse des ressources de l'État, à des ajustements un peu plus brutaux, d'une part, et toujours s'appuyer sur l'endettement comme forme de gestion, donc des déficits budgétaires. Donc ceci, par exemple, là, l'Équateur est dans une situation économique difficile du fait précisément avec les mêmes ces chocs externes de chute de recettes des exportations d'hydrocarbures. À cela se rajoute l'appréciation du dollar sur les marchés internationaux et donc l'Équateur hérite une perte de compétitivité d'échange du fait d'avoir les dollars et un autre choc additionnel qui a été le tremblement de terre en avril 2016 qui a aussi aussi des répercussions adverses sur la balance des pays, enfin sur le contexte externe. Donc, aujourd'hui, puisqu'on parle de s'investissement, ce qui se passe en Équateur, c'est qu'il y a une chute assez forte de l'investissement sur les PIB, enfin sur le produit,
sur le produit intérieur brut.
Et donc, en quelque sorte. Ceci peut avoir des répercussions sur la croissance à moyen terme.
Jean-François Ponceau, vous partagez ce point de vue ?
Et oui, je partage ce point de vue. C'est vrai que un des problèmes de l'Équateur, c'est que les marges de manœuvre pour le gouvernement sont très faibles du fait de son régime monétaire. Le fait d'avoir le dollar comme monnaie prive l'Équateur de s'ajuster en cas de difficulté avec le taux de change.
Parce que l'Équateur a le dollar pour monnaie.
Oui, le dollar américain est la monnaie officielle de l'Équateur depuis 2000. Donc évidemment, il n'y a plus de possibilité d'utiliser le taux de change comme instrument d'ajustement. On ne peut plus mener de politique monétaire. La politique budgétaire est relativement contrainte, notamment parce que la Banque centrale ne peut plus financer directement le gouvernement en cas de coup dur. Bon, et donc finalement, dans ce cas de figure, l'économie doit s'ajuster ou s'endetter vis-à-vis de l'extérieur. Et on constate depuis 5 ans une relation de dépendance financière de l'Équateur vis-à-vis de la Chine. Hein, c'est également le cas du Venezuela, la Chine qui devient véritablement le prêteur en dernier ressort de ces deux pays. Hein, ces pays ont besoin de dollars du fait d'un ajustement difficile et c'est la Chine qui prête ces dollars.
Beaucoup de dollars, des recueillis ?
Ben en fait, la Chine, j'avais le chiffre, je l'ai perdu, mais c'est vrai que la Chine n'investit pas vraiment. Elle prête beaucoup, beaucoup d'argent contre la vente de pétrole. Donc la plupart des exportations, la grande majorité des exportations de l'Équateur sont déjà compromises pour vente vers la Chine. En fait, le paiement du capital de la dette faite face à la Chine, c'est le pétrole. Et le taux d'intérêt, ce sont en dollars. Et il n'y a pas de long terme, les paiements doivent être immédiats, etc. Donc l'Équateur, c'est aussi évidemment par la perte de politique monétaire qui est bien avant Correa. Correa n'a pas pu faire grand-chose, mais c'est aussi quand même un choix de Correa de ne pas prendre des prêts internationaux à des taux de Libor plus une différence autour de 4% avec des organisations internationales qui lui imposent certaines politiques. Donc lui, il décide de payer 9, 10, des fois 12% avec la Chine.
Edgardo Torrijos, on voit que donc le dollar et la monnaie équatorienne, ce projet de monnaie pan-latino-américaine de Sucre a échoué. Vous avez travaillé sur cette question-là. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché?
Non, je ne sais pas si on peut dire que ça n'a pas marché, parce qu'en fait, les Sucre, dans un premier moment, il s'agit d'un système de paiement plutôt, pour faire du commerce sans passer par le dollar. En fait, c'est un système de compensation. Et donc, il est utilisé aujourd'hui, mais très faiblement utilisé. Il y a d'autres systèmes en Amérique latine qui semblent à cela. Un, c'est le Convenio de Pagos y Crédito Reciproco de Aladi, enfin, qui est un accord de paiement réciproque dans lequel participent presque tous les pays d'Amérique latine et Amérique centrale et qui est en place et qui est utilisé aujourd'hui aussi. Donc, je crois que sur les sucres, la Banco del Sur, je pense que c'est des projets très ambitieux et qui est peut-être difficile si on veut à mettre en place, comme cela a été évoqué, parce que il y a des résistances des grands pays d'Amérique latine comme le Brésil.
Eh bien, c'est le mot de la fin de cette émission. Écodici, Écodailleurs est terminé. Merci à vous trois, Jean-François Ponceau, qui était à Grenoble, Vera Keudi et Edgardo Torrijos-Hassain d'y avoir participé. Merci à Emmanuel Lal qui assurait la technique dans les studios de France Bleu Isère à Grenoble. C'est Guillaume Munier qui réalisait et mettait en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous a proposé Écho d'ici, écho d'ailleurs. Orange. Appelez-nous, exprimez-vous.